Vous écoutez On lit pour vous.
Les jeunes Gaspésiens ont une santé mentale précaire. Un texte de Dominique Fortier, paru le 5 décembre 2024 dans Chaleur Nouvelle. La plus récente enquête sur la santé des jeunes du secondaire, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, révèle une détérioration marquée de la santé mentale des jeunes Gaspésiens. Cette nouvelle enquête, effectuée sur l'ensemble du territoire québécois, dépeint un portrait assez sombre de la santé mentale des jeunes Gaspésiens, alors que les problèmes liés à l'anxiété, la piètre estime de soi et la dépression sont nettement plus importants qu'il y a 12 ans. On dénote que le nombre de jeunes ayant eu un diagnostic de dépression ou d'anxiété est passé de 12 à 29%, se situant au-dessus de la moyenne québécoise, 23%. Les troubles de déficit de l'attention sont aussi en forte hausse, alors que 34% des jeunes en sont atteints en 2022 contre 15% en 2010, 25% à l'échelle québécoise. Même constat sur le plan de l'estime personnelle. La proportion d'élèves se situant à un niveau faible a presque doublé, passant de 18 à 34% comparativement à 2010, mais demeure inférieure à celle du Québec, 37%. Les diagnostics de troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ont plus que doublé, passant de 15 à 34% entre 2010 et 2022, une proportion qui demeure plus élevée qu'au Québec, 25%. Pour la directrice régionale par intérim de la santé publique de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la docteur Christine Dufour-Turby, ce constat reflète les échos entendus sur le terrain. Je ne peux pas dire que j'étais surprise des résultats, même si j'en avais espéré d'autres. Il va y avoir du travail à faire, c'est clair. Il y a quelque chose dans les facteurs sociaux qui cause de la détresse. Il faudra voir les hypothèses qu'on peut émettre sur les causes de cette détresse afin de déterminer comment on peut agir concrètement. La situation des jeunes à l'école a aussi évolué de manière négative, alors que 32% de ces derniers affirment avoir été victimes de violences en 2022, soit une augmentation de 5 points de pourcentage comparativement à l'année scolaire 2016. Le sentiment d'appartenance à l'école a, pour sa part, chuté de 12 points pour s'établir à 54%. Le seul petit point positif se situe sur le plan du risque de décrochage, qui touche 22% des jeunes, soit une baisse de 4 points. Toutefois, l'indice demeure plus élevé que la moyenne québécoise, 18%. Quoi faire, docteur? La directrice de la santé publique croit que les adultes qui accompagnent les jeunes d'aujourd'hui doivent d'abord comprendre les réalités de la génération actuelle. On a un diagnostic de la santé de nos jeunes et c'est à nous de trouver des façons d'agir pour les outiller correctement. On doit bien saisir les enjeux émergents, notamment avec les réseaux sociaux, et évaluer ce qui fonctionne pour rejoindre nos jeunes. Depuis la pandémie, la santé publique déploie des actions pour tenter d'améliorer la situation des jeunes. On mentionne notamment l'approche « l'école en santé » qui se traduit par des efforts pour que les jeunes ne se sentent pas exclus et qu'ils sentent que les adultes qui les côtoient sont bienveillants et motivants. Il y a des programmes qui sont déployés pour faire la promotion de la santé positive et la prévention de l'anxiété. On souhaite ainsi mieux cibler les facteurs qui causent la détresse chez les jeunes, précise Christine Dufour-Turby. la santé publique croit qu'il est possible de faire une différence positive dans la vie des jeunes en implantant des mesures et des façons de faire qui sont saines et qui deviennent une normalité, notamment sur le plan de l'alimentation et de l'inclusion. Quant à l'accès à de l'aide personnalisée, les jeunes peuvent aussi faire appel à des ressources qui peuvent les conseiller, comme les infirmières dans les écoles. En conclusion, la docteure Dufour-Turby souhaite que l'état de santé des jeunes Gaspésiens s'améliore, mais il va sans dire que cet objectif ne sera atteignable que si l'ensemble de la communauté adopte des attitudes positives et bienveillantes. On travaille fort sur la prévention parce que, visiblement, les jeunes vivent des défis importants et on se doit de les comprendre et de les soutenir. À noter que toutes les données sont tirées de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 2022-2023, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, un total de 2976 élèves du secondaire de la région, répartis sur tout le territoire, ont répondu au questionnaire. C'était « Les jeunes Gaspésiens ont une santé mentale précaire », un texte de Dominique Fortier, paru le 5 décembre 2024 dans Chaleur Nouvelle.
Bébé dehors, même en hiver. Un texte de Marie Tison, paru le 15 février 2025 dans La Presse. Après avoir suivi de beaux sentiers enneigés en raquettes, la petite famille entre dans un refuge bien chauffé pour le goûter. Mais bientôt, le jeune enfant qui était installé dans un porte-bébé se met à hurler de façon incontrôlée. Ses petits pieds commencent à dégeler et ça fait mal, mal, mal. Personne n'avait réalisé qu'il y avait un problème. Le plein air en hiver, c'est bon pour les tout-petits, mais encore, faut-il suivre certaines règles pour que tout le monde revienne heureux. Je suis la première à dire qu'il faut continuer à faire des sorties en plein air, mais il faut faire attention à plusieurs choses, indique Naomi Veillette, monitrice de portage et responsable du site Active Mom. Les gens se disent qu'ils n'ont pas froid, mais ils sont en train de marcher, de monter, ils se réchauffent. C'est très différent chez l'enfant. Justement, dans un porte-bébé dorsal, l'enfant ne bouge pas. Claudine Dussault, une maman qui a fait des randonnées avec ses 6 enfants et raconte ses sorties sur sa page Facebook « Les petits pieds du bonheur », rappelle l'importance de bouger, et ce, tant pour les adultes que pour les enfants. On a beau avoir les meilleures mitaines, avoir des bottes à 600 $, si on ne bouge pas, c'est fini, on a froid aux pieds ou aux mains, soutient Mme Dussault. Elle s'y connaît. Son travail de préposé au stationnement l'amène à passer des journées de 15 heures à l'extérieur. L'immobilité, c'est pire pour un enfant assis dans un porte-bébé. C'est vraiment difficile de leur faire prendre une position ergonomique, dit Naomi Veillette. Avec leur gros manteau, avec le fait qu'ils sont souvent tendus par la fourche, ça empêche la circulation sanguine de se rendre aux pieds. Les jeunes enfants peuvent aussi avoir de la difficulté à verbaliser leur inconfort ou encore à simplement réaliser qu'ils sont en train de geler. On peut rendre l'enfant un brin plus confortable en utilisant la housse de pluie du porte-bébé, ce qui permet de créer une petite bulle de chaleur. On peut équiper l'enfant de sachets chauffants pour les mains et les pieds, mais jamais directement sur la peau, rappellent en chœur Naomi Veillette et Claudine Dussault. On peut mettre les sachets entre deux doublures de mitaines ou entre les bottes et les chaussettes. Mais le plus important, c'est de faire des pauses fréquentes, sortir l'enfant du porte-bébé ou encore du traîneau de ski de fond et le faire marcher. Encore faut-il que l'enfant soit assez vieux pour marcher des petits bouts tout seul, souligne Mme Veillette. la recommandation officielle, poursuit-elle, c'est que tant que l'enfant ne marche pas de longs bouts par lui-même pour se réchauffer, il devrait être dans le manteau du parent en portage. On peut mettre une rallonge de manteau, ce qui nous permet de transmettre notre chaleur à l'enfant en marchant. Il n'aura pas besoin d'un gros manteau lui-même, mais il lui faudra quand même deux couches, soit une couche de base en laine ou en polyester, surtout pas du coton, puis une couche de laine polaire. On aime beaucoup le polar une pièce, indique Naomi Veillette. On ajoute de petites pantoufles ou de petites bottines souples. Ça va être beaucoup plus confortable pour le parent et l'enfant que de grosses bottes en caoutchouc. Ça prend aussi un cache-cou et une tuque, parce qu'il va quand même avoir le visage à découvert. Pour Claudine Dussault, porter le jeune enfant près de soi dans son manteau, c'est l'idéal. Mais rendu à une certaine grandeur et un certain poids, dit-elle, c'est moins d'adon pour l'adulte. On peut aller jusqu'à 2 ans si on s'en sent capable. Il faut aussi veiller à ne pas faire de trop longues randonnées, surtout s'il fait plus froid et s'il vente. Une balade d'une heure, ça peut être bien suffisant. Si on fait de 2 à 3 heures, ça commence à être une bien grosse randonnée pour un jeune enfant. Ce n'est pas le temps de tester nos limites. On veut être davantage dans le plaisir, affirme Naomi Veillette. La gestion du risque doit être un peu plus contrôlée. Elle conseille ainsi aux parents qui partent seuls avec des enfants d'emprunter des sentiers fréquentés afin de croiser des gens. Tant Naomi Veillette que Claudine Dussault tenaient à poursuivre la randonnée après avoir eu des enfants. Les gens me disaient que c'était un peu fou comme projet, que je ne pourrais pas aller aussi loin, aussi haut, raconte Madame Veillette. J'ai parti un blog pour montrer que j'allais vivre ce mode de vie-là. Claudine Dussault a aussi tenu à ce que ses enfants deviennent des enfants de plein air. On essaie tous d'être dehors le plus souvent possible, parce que sinon ce sont les écrans, et moi, j'essaie de les en éloigner le plus possible. C'était « Bébé dehors, même en hiver », un texte de Marie Tison, paru le 15 février 2025 dans La Presse. Tour d'horizon d'une année électrique, un texte d'Alexis Riopel paru le 15 février 2025 dans Le Devoir. Une nouvelle vague électrique déferle sur le Québec. Fin janvier 2025, le gouvernement Legault annonçait une entente en vue d'un nouveau grand projet éolien pour Hydro-Québec, la troisième depuis l'été 2024. En décembre 2024, il dévoilait une entente de principe au sujet de Churchill Falls avec 2 nouvelles centrales hydroélectriques à la clé. Dans la dernière année, Québec a mis sur la table de grands projets totalisant 7400 MW de puissance électrique, c'est-à-dire 15% de la production actuelle, assez pour chauffer 1 million de résidences en hiver. À terme, ces installations à 40 milliards de dollars joueront un rôle majeur dans l'arsenal d'Hydro-Québec. Pour y voir plus clair, Le Devoir vous propose un tour d'horizon. La zone Chamouchouane. En juillet 2024, Hydro-Québec annonçait un partenariat avec la Première Nation des Pikuakwa, Miwilnwatch, les Atikameks de Wemotachi et la MRC du Domaine du Roi. Objectif, développer le potentiel éolien de la zone Chamouchouane au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette zone de 5000 km² à l'ouest du lac Saint-Jean pourrait accueillir 3000 MW de capacité éolienne. En considérant des éoliennes modernes de 6 MW chacune, on parle de 500 turbines. À l'heure actuelle, seuls 2 parcs éoliens dans le monde génèrent une telle puissance en Chine. C'est une occasion unique de valoriser le potentiel éolien du territoire tout en respectant nos traditions et notre environnement, déclarait Viviane Chilton, la chef du conseil des Atikameks de Wemotachi.
Conformément à la stratégie de développement éolien lancée par Hydro-Québec en mai 2024, la création du parc s'inscrit dans un nouveau modèle. Les communautés sont actionnaires à 50 %, la société d'État à 50 %. Tout est encore à faire. Le plan du parc, les consultations publiques, les analyses environnementales, la sélection des entrepreneurs, etc. Ce nouvel élan de développement ne fait pas que des heureux. Parmi les écologistes, plusieurs réclament, avant tout nouveau projet, un BAP générique sur l'ensemble de la filière éolienne. La zone Wau-Cawson. En octobre 2024, la Société d'État annonçait un second méga-projet éolien, celui de la zone Wau-Cawson dans le Bas-Saint-Laurent. On parle d'y produire 1000 mégawatts dans le cadre d'un partenariat avec l'Alliance de l'énergie de l'Est qui regroupe 16 MRC et la première nation Wallastokiyik Wassipekuk basée à Kakuna. La zone Wau-Cawson, 700 km², est située à l'intérieur des terres vis-à-vis de la municipalité de l'Apocatière. Un parc éolien d'une puissance installée de 1000 MW permet d'alimenter environ 175 000 résidences. Cela prend en compte un facteur d'utilisation de 35 % dans l'année, sachant que le vent ne souffle pas toujours. En ouvrant les vannes des centrales hydroélectriques, on peut compenser des moments creux. Les deux technologies sont complémentaires. C'est intéressant de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, juge José Provençal, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean, spécialiste des énergies renouvelables et de la suffisance énergétique. Le fleuve Churchill. En décembre 2024, François Legault annonçait une entente de principe avec Terre-Neuve et Labrador au sujet de la centrale de Churchill Falls, dont Hydro-Québec achète la majorité de la puissance depuis plus de 50 ans. Le Québec se garantit non seulement un accès à long terme à cette production, mais aussi le développement de nouveaux projets hydroélectriques sur le fleuve Churchill, qui coule au Labrador. La nouvelle centrale CF2 générera 1100 MW de puissance, dont 90 % pour Hydro-Québec à partir de 2035. Cette installation puisera son eau dans le réservoir existant. Elle produira autant d'énergie que celle exportée vers New York dès 2026. La nouvelle centrale Gull Island, en aval sur le fleuve, aura une capacité totale de 2250 MW, dont 90 % pour Hydro-Québec. Elle se comparera aux plus puissantes du Québec, LG3, LG4 et Robert Bourassa. Installée au fil de l'eau, elle nécessitera un nouveau barrage. La zone Nutinamu-Chauvin. Finalement, en janvier 2025, le gouvernement a annoncé une entente entre Hydro-Québec et la Première Nation des Innus Essipit et la MRC du fjord du Saguenay. Celle-ci concerne le développement éolien de la zone Nutinamu-Chauvin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La zone située au nord-ouest de Tadoussac pourrait accueillir 1000 MW d'éoliennes d'ici 2035. Cela participe au plus grand chantier économique et énergétique de notre histoire, expliquait M. Legault, celui de doubler la production d'électricité du Québec d'ici 2050. C'est la baie James du 21e siècle, un projet qui fera rayonner notre prospérité, déclarait-il. Il était temps qu'on se lance dans des projets éoliens de cette envergure. Hydro-Québec connaît très bien les gisements de vent et sait comment intégrer cette énergie à son réseau hydroélectrique, observe Bernard Saunier, un chercheur retraité de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec qui, en 2009, a publié avec Réal Reid « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique ». Des chantiers nécessaires? À ces projets majeurs annoncés dans la dernière année s'ajoutent des initiatives moins impressionnantes, mais également stratégiques. Par exemple, Hydro-Québec poursuit la réfection de ses centrales hydroélectriques pour dégager une plus forte puissance sans augmenter la géométrie des barrages. Elle développe aussi son réseau de transport électrique. Mais les grands chantiers de production sont-ils nécessaires? Le Québec, déjà qualifié d'ogre énergétique, devrait-il abaisser sa consommation en premier lieu? Les grands projets éoliens, on va en avoir besoin, répond Mme Provençal. On sait qu'on doit faire la transition vers l'électrique, notamment parce qu'on utilise tellement d'énergie fossile dans le transport. Cela dit, je reproche au gouvernement du Québec de s'appuyer uniquement sur une augmentation de la production. En amont, la sobriété est essentielle. Parallèlement aux annonces sur les grands projets électriques, la professeure aimerait voir le gouvernement promettre un nouveau programme de rénovation éco-énergétique qui dégagerait 1000 mégawatts à l'échelle du Québec, ou un investissement dans le transport collectif qui nous ferait économiser 100 millions de litres d'essence. Il faut des politiques publiques pour rendre possible cette sobriété-là, soutient-elle. M. Saulnier est également favorable à 110 % à l'accélération des efforts d'efficacité énergétique. Il estime que la rente éolienne que touchera le gouvernement grâce aux grands projets éoliens pourrait financer une telle transformation dans le secteur du bâtiment, par exemple. Mais pour complètement décarboner, il faudra aussi plus de puissance, et ce n'est pas l'hydraulique qui pourra nous la procurer, dit-il. C'était Tour d'horizon d'une année électrique, un texte d'Alexis Riopel paru le 15 février 2025 dans Le Devoir.
Les menaces de Trump et les luttes parallèles pour la souveraineté. Une chronique de Robert Falcon Ouellette paru le 20 février 2025 dans Espace autochtone. Récemment, les Canadiens ont fièrement hissé le drapeau de l'érable à l'occasion de la Journée du drapeau national, marquant une montée de fierté nationale face aux menaces du président américain Donald Trump contre la souveraineté du Canada. Des milliers de drapeaux ont flotté à travers le pays, un engagement collectif à défendre l'indépendance de notre pays. Cinq anciens premiers ministres se sont unis pour exhorter les Canadiens à afficher le drapeau comme un signe d'unité et de défi. Cependant, il y a une ironie indéniable dans ce moment. Le premier ministre Justin Trudeau, malgré ses appels à l'unité, reste prudent dans sa réponse aux menaces de Trump. Sa réticence à agir aussi fermement que beaucoup de Canadiens pourraient le souhaiter découle du levier économique à long terme que les États-Unis exercent sur le Canada. Trudeau sait que la relation du Canada avec les États-Unis est complexe. Même une petite erreur pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour notre économie et notre avenir. Dans les années 1980, sous le premier ministre Brian Mulroney, le Canada avait signé l'accord de libre-échange, liant le destin économique de la nation encore plus étroitement aux États-Unis. À l'époque, cela semblait être une décision facile. Plus d'argent et un partenaire commercial puissant. Aujourd'hui, le Canada se trouve à un carrefour, face à ce qui pourrait bien être un divorce coûteux. Ce n'est pas la première fois que certains Canadiens se sentent à nouveau à la merci d'une force dominante. Les promesses brisées que nous vivons aujourd'hui résonnent avec les promesses faites aux Premières Nations il y a plus d'un siècle. Lorsque les Premières Nations ont signé des traités avec le Canada, on leur a promis que ces accords dureraient aussi longtemps que le soleil brille, que l'herbe pousse et que les rivières coulent. Pourtant, ces promesses ont été brisées à maintes reprises. Tout comme les États-Unis brisent leur confiance envers le Canada, les Premières Nations ont longtemps enduré des traités brisés. L'ironie est que, tout comme les Premières Nations, le Canada se trouve aujourd'hui impuissant face aux menaces extérieures et aux engagements non tenus. Les Premières Nations à travers ce pays ont fait face à des siècles d'oppression systémique, la loi sur les Indiens servant d'outil qui continue de priver les peuples autochtones de la même souveraineté et des mêmes droits que les autres Canadiens. Même déséquilibre de pouvoir. Lorsque les Premières Nations affirment leurs droits, par des blocages pacifiques ou d'autres formes de résistance, la réponse du Canada est rapide et violente. De la crise d'Oka au mouvement de solidarité Wet'suwet'en et au blocage ferroviaire, le gouvernement n'a jamais hésité à déployer la GRC ou les forces militaires. La seule hésitation concernait qui était responsable, la GRC, l'armée ou les tribunaux, mais jamais le gouvernement. Aujourd'hui, alors que le Canada fait face à des menaces similaires de la part des États-Unis, nous sommes contraints de reconnaître le même déséquilibre de pouvoir qui a défini nos relations avec les peuples autochtones pendant plus d'un siècle. Les États-Unis utilisent leur puissance économique comme une arme, tout comme le Canada a utilisé sa propre puissance économique contre les Premières Nations. On nous a longtemps dit que se tenir trop fermement pourrait nuire à notre économie, tout comme on a dit aux peuples autochtones qu'affirmer leurs droits pourrait entraîner leur ruine économique. Pensez, par exemple, à la façon dont le gouvernement canadien a blâmé les Premières Nations pour le déficit important dans l'énoncé économique de l'automne. Cette leçon, que les Premières Nations connaissent depuis 155 ans, est claire. Nous pouvons être frappés pour nous faire du mal, mais les dégâts ne sont pas partagés de manière égale. Les promesses faites aux Premières Nations n'ont pas seulement été brisées, elles ont été anéanties. Les cicatrices de cette trahison demeurent. Aujourd'hui, le Canada se trouve dans une situation similaire, pris entre le désir de maintenir sa souveraineté et les pressions économiques du monde globalisé. Les promesses brisées du passé et le déséquilibre de pouvoir auquel nous faisons encore face aujourd'hui ne peuvent être ignorés. Le Canada doit reconnaître que la lutte pour la souveraineté, qu'il s'agisse de la souveraineté des Premières Nations ou de la souveraineté du Canada dans son ensemble, est en cours. Nous ne devons pas nous laisser bercer par la complaisance face aux menaces extérieures ou à de fausses promesses de protection. Alors que nous levons haut nos drapeaux en défi face aux menaces de Trump, souvenons-nous de la lutte continue pour la justice et le respect des droits des peuples autochtones. La souveraineté du Canada ne sera significative que lorsque nous reconnaîtrons la souveraineté de tous les peuples, en particulier ceux qui ont supporté le poids des promesses brisées pendant trop longtemps. Indépendant, respecté, mais ignoré, ordre des forces, imposé. Non-conformité, toujours réprimée. Imposition de la vérité, effacement de l'histoire, l'ironie dans la liberté. C'était « Les menaces de Trump et les luttes parallèles pour la souveraineté », une chronique de Robert Falcon-Ouellette parue le 20 février 2025 dans Espaces autochtones.